Chapitre 32. Rainy avait toujours su qu'être parent ne serait pas tous les jours une partie de plaisir, qu'il y aurait des moments où il lui faudrait lutter contre son instinct pour agir au mieux, où la situation exigerait d'elle de se montrer sévère plutôt que tendre, de jouer les méchantes plutôt que les confidentes. Par exemple, en cet instant précis, en revoyant sa fille après un après-midi d'angoisse, à l'heure où le soleil déclinait et où les bois se peuplaient d'ombre, son cœur se serra à tel point dans sa poitrine qu'elle en éprouva une douleur physique. Elle aurait voulu se précipiter dehors, attraper Charla, la serrer farouchement dans ses bras, puis palper sa fille, les bras, les jambes, pour vérifier qu'elle n'était pas blessée, en se répétant qu'elle était saine et sauve, que le danger était passé, qu'elle pouvait de nouveau respirer. Charla sortit du bois et, au lieu de courir vers elle, Rainy s'obligea à rester en voiture, silencieuse, calme et bien sûr aux aguets. Le frère de Charla devait être dans les parages, du moins jusqu'à récemment. Car Rainy connaissait sa fille. Cette tête de mule n'aurait jamais renoncé à la mission qu'elle s'était donnée. Si elle avait appelé à la maison, cela voulait forcément dire qu'elle avait enfin pu voir Telly et que son grand frère l'avait envoyée balader. Sa fille souffrait. Rainy le vit à son dos voûté, au profil abattu de sa tête basse lorsqu'elle traversa le pré pour rejoindre la voiture, Luca à ses côtés. Pas le genre de blessure qu'on découvrirait en l'examinant de la tête aux pieds, mais tout de même. Rainy descendit de voiture et scruta la forêt rapidement gagnée par l'obscurité derrière sa fille. Telly avait une carabine. S'il se cachait parmi les arbres et l'observait à présent à travers son viseur, les sous-bois trop sombres étaient impénétrables au regard. Elle entendit des oiseaux au loin, le bruissement de l'herbe sous le vent léger, le pas lourd de Charla. Rien d'autre. Charla et Luca arrivaient. Rainy actionna la commande pour ouvrir le coffre. Luca n'avait pas besoin de plus ample invitation. Il parcourut les 20 derniers mètres au petit galop et sauta dans la Lexus de Rainy. Quelques secondes plus tard, Charla était là, son visage brûlé par le soleil, les cheveux en bataille, ses jambes et ses bras nus couverts d'égratignures. « Je te demande pardon », dit-elle d'un air si triste, si découragé, que Rainy sentit le nœud de peur et de colère qui lui étreignait la poitrine se dissoudre aussitôt. « Il t'a envoyé promener, c'est ça ?»«
Il m'a dit de profiter de la vie et d'être heureuse pour qu'au moins l'un de nous le soit. »«
Ma pauvre chérie. »
Et ensuite,
Charla prit une grande inspiration, regarda Rainy droit dans les yeux.
Il m'a dit qu'il lui restait une personne à tuer.
Monte en voiture. J'ai apporté à boire et à manger, pour Luca aussi.
On ne rentre pas à la maison, c'est ça?
Non, on ne rentre pas à la maison. Rainy alla tout droit au bureau du shérif. Assise à côté d'elle, Charla ne disait pas un mot. Un sandwich beurre de cacahuète confiture intact sur les genoux. Luca, en revanche, avait englouti une gamelle de croquettes. Cela faisait au moins un membre de la famille qui était content. Rainy était restée en contact avec Quincy tout l'après-midi. Après la descente dans le campement de Telly, toute l'équipe était rentrée en ville pour examiner leurs trouvailles. Il leur fallait plus de place pour exposer les photos des carnets de Telly prises par le pisteur, ainsi qu'un tableau blanc pour noter les questions, les idées qui leur venaient, les nouvelles pistes à explorer. À la connaissance de Rainy, des caméras avec détecteurs de mouvement avaient été laissées sur place. Si elles se déclenchaient, les unités spéciales du SWAT se mobiliseraient aussitôt. En attendant, priorité était donnée aux opérations d'investigation. Les informations que Charla avait à leur donner sur son frère n'en étaient que plus intéressantes, sans parler de la récente découverte de Rainy. « Mange ton sandwich », dit-elle à Charla alors qu'elles approchaient de leur destination. On va avoir besoin de tes forces. Le bureau du shérif était toujours assiégé par un bataillon de camionnettes de reportage, tout projecteur allumé. Rainy se félicita d'être au volant d'une voiture manifestement civile lorsqu'elle tourna vers la foule. Une cohue de journalistes se précipita vers elle, découvrit une femme sans intérêt avec sa fille et battit en retraite en quête d'une proie plus intéressante. Rainy gagna le parking situé à l'arrière du bâtiment, plus calme, et se gara. Charla avait réussi à avaler 3 bouchées de son sandwich, pas une de plus. Mais au moins, elle avait bu la bouteille d'eau. Rainy regarda sa fille, soupira.
« Je t'aime, » dit-elle d'un seul coup. « Tu es fâchée contre moi. Je n'aurais pas dû me sauver. »«
C'est sûr. »«
Vous allez me priver de sortie.
dit la jeune fille en contemplant ses genoux.
Il y aura des sanctions. Charla, faire confiance est un art difficile. Surtout pour les gens comme nous. Toi, moi, Quincy. Nous avons tendance à croire que nous savons tout mieux que les autres et à préférer nous débrouiller seuls. Mais l'arrogance, les préférences personnelles, ce n'est pas ça qui doit primer dans une famille. On est là pour se faire confiance, s'épauler mutuellement.
« J'ai eu peur que vous lui fassiez du mal, » murmura Charla. « Au pire, que lui vous fasse du mal. »
« Je sais, mais c'est là que la confiance doit intervenir. Au lieu d'agir seule, tu aurais pu venir nous voir, nous faire part de tes craintes. »«
Vous m'auriez répondu que vous sauriez vous y prendre avec lui. »
« C'est juste. » Charla avait l'air malheureuse comme les pierres.
« Mais je ne sais pas si c'est vrai, »
dit-elle en levant finalement les yeux.
« Ce nouveau Telly, son visage, la carabine, c'est un parfait inconnu. »
« Mais il ne t'a pas fait de mal. »
« Non. »
« Il t'aime encore. »
« Je ne sais pas. »
Charla. Rainy se tourna sur son siège pour regarder sa fille en face. « Peut-être que ton frère n'a pas dit ce que tu espérais entendre. Mais est-ce que toi, tu as eu la possibilité de dire ce que tu voulais ?»«
Je lui ai dit que j'étais désolée. »
Rainy attendit.
« J'aurais pas dû le laisser partir à l'époque. J'aurais dû demander de ses nouvelles, réclamer de le voir, je sais pas. C'était mon frère. J'aurais dû me battre davantage. »
« Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Charla secoua la tête, détourna les yeux. Rainy garda le silence encore une fraction de seconde. « À deux doigts », se disait-elle. Elles étaient à deux doigts des mots que Charla aurait eu besoin de prononcer, sur ce qui s'était réellement passé ce fameux soir avec ses parents, sur ce que Rainy avait commencé à soupçonner après sa conversation avec la psychiatre dans l'après-midi. « Confiance », souffla Rainy. Mais certaines leçons demandent plus de 13 ans pour être assimilées. Sa fille, mal dans sa peau, secoua de nouveau la tête. Puis elle ouvrit sa portière et Rainy n'eut d'autre choix que de la suivre. Lucas se plut beaucoup dans les locaux du shérif. Il s'y déplaçait au petit trot raide, regard affûté et oreilles dressées. Un ancien officier de police qui reprenait du service. Il faisait trop chaud pour laisser le berger allemand dans la voiture, fût-ce à cette heure tardive. Et même si Rainy aurait aimé penser que sa propre présence donnerait à sa fille la force d'affronter l'interrogatoire à venir, elle savait que Lucas serait un plus grand soutien encore. Elles prirent les escaliers qui montaient au premier étage avec Lucas en éclaireur et trouvèrent Quincy dans la salle de réunion en compagnie de 3 autres personnes. Les murs étaient tapissés de photos, des tirages d'imprimantes, constata Rainy. La définition laissait à désirer, mais dans la mesure où il s'agissait de reproductions de vieilles photos et de pages de journal intime, on pouvait s'en contenter. Regroupées dans un coin, d'autres photos, celles du campement de Telly. Un tas de matériel sur une palette en bois au milieu d'une petite clairière. Pas de quoi faire rêver Rainy, qui ne concevait pas un week-end d'escapade autrement qu'avec service d'étage. Quincy leva les yeux à leur arrivée. Lucas, qui l'avait déjà trouvé, poussait sa main du museau. Quincy lui flatta la tête et son regard croisa un instant celui de Rainy avant de se poser sur Charla. Rainy lut sur le visage de son mari toutes les émotions contradictoires qu'elle avait aussi éprouvées. Soulagement, mais aussi irritation, colère, irritation encore, désespoir. Les joies de l'éducation, dire qu'il s'était porté volontaire. Elle répondit au regard interrogateur de Quincy par un petit hochement de tête. Sa façon de lui confirmer que oui, elle avait pu parler à leur fille. Et qu'il faudrait jusqu'à nouvel ordre s'en satisfaire, étant donné que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour régler son différend avec Charla. Leur fille était de retour saine et sauve. Il y avait déjà lieu de s'en réjouir. Rainy ouvrit les hostilités. Elle l'a vu. Un homme se leva de table, une part de pizza à la main. Il portait une tenue de randonnée pleine de taches de sueur et des chaussures défraîchies. Le pisteur, devina Rainy. Comment Quincy avait-il dit qu'il s'appelait déjà ? Cal Noonan. Lucas s'approcha en trottinant, le renifla de bas en haut. Sembla le juger convenable. Pour sa part, l'homme ignora le berger allemand, termina sa pizza. Localisation approximative ? Demanda-t-il en prenant une punaise dans une boîte sur la table. Lorsqu'elle avait récupéré Charla,
Rainy avait enregistré les coordonnées GPS dans son téléphone. Elle montra son écran au pisteur.
« Rainy Connor », dit-elle pour se présenter.
« Cal Noonan, merci. » Il y avait une carte grand format sur le mur derrière Rainy et Charla. Cal marqua les coordonnées avec sa punaise bleu vif. Puis il recula et tiqua. « C'est à 20 kilomètres au sud du campement. » Il regarda Charla. « Il était toujours en quad ?»
Mutique, l'adolescente, fit non de la tête.
« Il l'avait laissé quelque part ?»«
Non. Non. »«
Vous n'êtes pas sûre ?» Charla haussa les épaules, mal à l'aise de se trouver au centre de l'attention.
« Il était à pied, » dit-elle tout bas. « Avant que je le voie. Et après aussi. »
Rainy fixait ses chaussures et ne résistait qu'à grand-peine à l'envie de prendre sa fille dans ses bras pour la protéger. Mais les faits étaient là. Charla avait fugué pour rejoindre un homme soupçonné de multiples meurtres. Ce faisant, elle avait scellé son sort et s'était exposée à des interrogatoires, aux questions soupçonneuses de la police, etc.
« Est-ce que c'est son campement ?»
Charla surprit Rainy en posant une question. La jeune fille montrait du doigt la série de photos se trouvant en face d'elle. Le pisteur confirma. Il n'avait pas un regard méchant, pensa Rainy. Juste grave. Un homme qui avait eu une longue journée et vu deux coéquipiers tomber dans l'exercice de leurs fonctions. Elle remarqua que Luca restait à ses pieds, comme pour marquer son approbation. Et le shérif Atkins ainsi que Roy, son enquêteur, semblaient volontiers le laisser mener les échanges. Signe de respect, là encore.
« Il m'avait dit que vous le trouveriez »,
indiqua Charla d'une voix plus claire. Shelley Atkins considéra la jeune fille avec un regain d'intérêt. Elle traversa la pièce pour s'approcher de Charla.
« Redis-moi ça. Telly savait qu'on trouverait son campement ?»«
Il a dit que Henry ne résisterait pas à l'envie de vous en parler. »
Charla prit une grande inspiration, regarda le shérif dans les yeux. Elle faisait de son mieux. Rainy se doutait que les autres personnes présentes ne devaient pas s'en rendre compte, à part Quincy bien sûr. Mais leur Charla, si timide, anxieuse et désireuse de rester dans l'ombre, s'efforçait de répondre à leurs attentes.
« Telly m'a dit qu'il voulait que vous trouviez son campement, que ça vous occuperait. Là-bas, vous voyez. Pendant que vous seriez en train de fouiller le campement, lui partirait vers le sud. »
Cal était dépité.
« Je vous l'avais dit qu'il était rusé. »«
Pourquoi vers le sud ?» demanda le shérif sans quitter Charla du regard.
« Je ne sais pas. »
« Est-ce qu'il a dit où il allait ?»«
Non. »
Charla donna des signes d'agitation, se balança d'un pied sur l'autre. Sa voix baissa d'un ton.
« Il a dit que je ne pouvais pas venir avec lui. Que je ne pouvais pas le suivre parce que... Enfin... »
Elle termina dans un filet de voix.
« Il a dit qu'il lui restait encore une personne à tuer. »
« Qui ça ?» La voix de Quincy claqua comme un coup de fouet à travers la pièce. Charla sursauta. Elle continua à regarder le shérif tout en répondant à la question de son père.
« Je ne sais pas. »
« Est-ce qu'il était armé ?» continua posément Quincy. Pas la question d'un père à sa fille, mais d'un profileur à un témoin. Une fois encore, Rainy s'obligea à regarder ses pieds, à ne pas intervenir. Elle avait ses méthodes, Quincy avait les siennes. Luca, en revanche, se rapprocha de sa jeune maîtresse et lui donna doucement des coups de museau dans la main jusqu'à ce qu'elle la pose sur sa tête. Les doigts de Charla s'enfoncèrent dans le pelage du chien et elle parut y puiser des forces.
« Telly avait une carabine, »
répondit-elle à haute et intelligible voix.
« Et sur le visage, »
ajouta-t-elle en se touchant les joues de l'autre main,
« du maquillage, des rayures. Quand je l'ai découvert devant l'arbre, j'ai failli ne pas le voir. On aurait pu le confondre avec un buisson. Après, il a ouvert les yeux. Et c'était ça qu'on voyait. Le blanc de ses yeux, luisant. »
Sa voix se perdit. Rainy n'avait aucun doute sur le genre de cauchemar que ferait sa fille dans les jours, les semaines, les mois à venir. Le pisteur reprit la parole. « Quoi d'autre comme matériel ? Un sac à dos ? De la nourriture, de l'eau ?»«
Il avait un sac à dos bleu marine, de la même taille que le mien. Je lui ai proposé à manger. »
Charla prenait bien soin de rester de biais par rapport à son père en disant cela.
« Il a dit que ça allait, mais il a pris de l'eau. »
Quelle quantité ?
Oh, une bouteille.
Est-ce que tu as vu d'autres armes ?
Non.
Mais son sac ? Est-ce qu'il se peut qu'il ait eu d'autres carabines sur lui ? Charla plissa le front.
Des carabines, non. Mais le sac était lourd. Comme lesté.
Elle leva les yeux.
Je me suis demandé s'il l'avait rempli de nourriture ou de munitions.
Et des pistolets ? Demanda Quincy à sa fille. Est-ce qu'il en aurait eu un coincé dans la ceinture de son pantalon ?
Nouveau signe négatif de la tête. Le shérif Atkins se retourna vers les adultes de la pièce.
Les pistolets pourraient tenir dans le sac, mais les deux carabines qui nous manquent ?
Il ne les a pas sur lui,
grommela Cal. Pour être franc, j'ai aussi des doutes sur le fait qu'il trimballe trois armes de poing. Ça ferait une charge assez lourde, sans compter les munitions. Quitte à planquer les carabines, autant planquer un ou deux pistolets par la même occasion.
Il a un autre repère, conclut Shelley.
Son vrai camp de base, pas comme le faux qu'il a mis en scène à notre intention,
dit Cal en désignant les photos.
Avec un sac à dos rempli de ses journaux intimes et d'un album photo,
souligna Quincy d'un air songeur. Il avait cette expression que Rainey connaissait bien quand le reste de la pièce disparaissait et que n'existait plus pour lui que les indices.
Pourquoi mettre des objets aussi personnels dans un campement factice ?
Demanda-t-il.
J'ai une question encore plus importante.
Rainey prit une grande inspiration. L'heure était venue.
J'ai passé l'après-midi à étudier les photos de scènes de crime. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez les Duval ce matin, ni avec l'équipe de recherche cet après-midi. Mais les meurtres de la station-service, ce n'est pas Telly, et je peux le prouver.
L'analyse des taches de rousseur, dit Rainey. Elle sortit un dossier de son sac, puis, sous le regard de tous, y compris de Charla, disposa sur un coin de la table de réunion une série d'images prises par la caméra de surveillance de la station-service. Quincy et moi avons un jour travaillé sur une affaire où le meurtrier a été identifié grâce à cela. Pour faire court, il y avait très peu de chances qu'une autre personne ait des taches de rousseur disposées exactement de la même manière que celles qu'on voyait sur les photos où le meurtrier s'était pris avec ses victimes. Depuis ce jour-là, j'ai tendance à observer les taches de rousseur.
Rainey pointa l'assortiment de photos. La première montrait un bras nu dans l'embrasure de la porte de la station-service qui pointait un pistolet sur la victime masculine. Venait ensuite un plan au cadrage tout aussi improbable. Un avant-bras coupé du reste du corps, désormais dirigé vers la caissière. Enfin, l'image qui avait principalement retenu leur attention ce matin-là, Telly Reinach, plein cadre, regardant droit vers la caméra avant de tirer.
« La définition n'est pas extraordinaire, » dit Rainey, étant donné que la caméra de sécurité filme des images en noir et blanc granuleuses. Mais sur chaque plan arrêté, on voit bien le poignet du tireur et une bonne partie de l'avant-bras. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez.
Quincy fut le premier à s'approcher de la série de photos, Charla presque immédiatement derrière lui. Le conflit père-fille semblait déjà oublié, le regard à tous deux baissé, concentré sur les images.
Sur les plans où le tireur est hors champ, dit Quincy, l'avant-bras est plus épais. Et il y a une tache quelconque, peut-être un gros grain de beauté, 5 centimètres au-dessus du poignet.
Telly n'a pas cette tache sombre,
s'enthousiasma Charla.
On ne voit rien à son poignet.
Shelley Atkins et Roy Peterson jouèrent des coudes pour se rapprocher.
« Je ne comprends pas, » dit finalement le shérif. « D'après ces images, Telly aurait tiré sur la caméra de surveillance,
mais pas sur les victimes, »
s'étonna le pisteur qui regardait par-dessus l'épaule de Shelley. Rainey confirma. « Quand j'ai discuté avec l'assistante sociale tout à l'heure, elle m'a raconté un épisode qui s'était produit dans la précédente famille d'accueil de Telly, avant son placement chez les Duval. » La mère avait accusé Telly de vol. Telly n'a pas eu un mot pour se défendre. Il est parti, c'est tout. Mais plus tard, la mère a découvert que c'était un autre enfant qui chapardait.
Shelley la regarda avec de grands yeux. « Vous êtes en train de me dire que Telly a détruit la caméra de surveillance parce qu'il aime bien se laisser accuser ?»«
Je crois surtout qu'il a l'habitude de le faire. »
Rainey lança un coup d'œil à sa fille.
Bien utile à savoir si vous étiez un vrai tueur en quête d'un pigeon à qui faire porter le chapeau.
Il est victime d'un coup monté,
conclut Quincy. Il pencha la tête sur le côté.
Pour le meurtre des Duval aussi, tu crois? Avec les antécédents qu'il a, c'est vrai qu'il ferait un excellent bouc émissaire.
Mais pourquoi se laisserait-il accuser?
Charla ne comprenait pas.
Pourquoi tirer sur la caméra de la station-service plutôt que de demander de l'aide?
J'ai une théorie, dit Rainy d'une voix douce. Nouveau coup d'œil vers sa fille. Ces photos de toi qu'on a retrouvées dans le garage des Duval. Je ne pense pas qu'elles aient été prises par Telly pour te menacer. Je pense qu'elles ont été prises par un tiers et envoyées à Telly à titre d'avertissement. Soit Telly coopère, comprit Quincy, soit il arrivera malheur à Charla. Rainy posa une main sur l'épaule de sa fille. Héros ou zéro. Des années après, je crois que Telly est encore en train d'essayer de te sauver.